Ouais, moi, ma mère, elle m'a dit, ah ouais, c'est dur, mais tu vois, moi, j'ai perdu mon père très jeune, et puis ça va, tu vois, en fait, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et puis, c'est passé, maintenant, faut que tu tournes la page quand même, hein, parce que ça arrivera plus, hein.
C'est Rita, c'est toujours Rita. Du coup, on se retrouve pour le troisième et dernier volet de cette émission sur les mécanismes de la silenciation quand on dénonce l'inceste, du moins quand on essaye de dénoncer l'inceste. Donc dans la deuxième émission, on a abordé la psychophobie, les autres oppressions systémiques, la culpabilisation et la sacralisation de la famille. Là, pour la troisième émission, on va plutôt se concentrer sur le déni, la dissonance et les mécanismes d'auto-silenciation et d'autocensure. On va continuer sur ce même format où on va alterner entre des discussions et des témoignages de personnes qu'on a rencontrées. Voilà, on espère que ça continue de vous parler, de faire sens pour vous. Bonne écoute et on se retrouve après. Ciao.
Mécanismes qu'on est en train de discuter là sont quand même systématiquement présents, il y a quand même un mécanisme aussi qui revient assez
systématiquement
et c'est le déni, l'indifférence, l'oubli, la normalisation, le déni. Et en fait, le déni, c'est vraiment de tu parles à quelqu'un et il passe à autre chose, il change de sujet, il regarde en l'air. Et ça arrive vraiment de dire voilà, je viens te voir parce que je veux te raconter ça. Et la personne regarde en l'air, échange de sujet et ne t'en reparle jamais. Ça, c'est du déni. Ou c'est le fait de devoir répéter. Et du coup, la personne est choquée, paraît choquée, réagit en mode « Ah bon, mais je savais pas, mais pourquoi tu me l'as pas dit ?» Mais et voilà. Et du coup, 3 mois après, t'en reparles de « Bah oui, mais tu sais... » Enfin, 3 mois après, par exemple, la personne te dit « Bon, est-ce que du coup, tu viens manger samedi prochain avec telle personne de la famille ?» Et toi, tu redis « Ben non, tu sais, je t'ai dit que cette personne-là m'a violée à tel moment. Ah, oh, ah bon, je savais pas. Et là, tu te dis, mais est-ce que la personne se fout de ma gueule ou est-ce que vraiment la personne oublie? Et moi, j'ai la sensation dans mon cas que vraiment, par exemple, des personnes vraiment oubliaient systématiquement. 3 fois, 4 fois, 6 fois, oubliait cette information, ou alors oubliait la gravité. Savait qu'il s'était passé quelque chose, sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais oublie la gravité de la situation.
Moi, ça me fait penser à ce truc de déni, là, et vraiment d'oubli, d'avoir dû à plusieurs reprises repréciser, redire, re-répéter ce qui s'était passé, les conséquences, ce que ça avait pu engendrer, et vraiment de devoir tout redérouler pour que ça... comme si j'en faisais des tonnes, quoi, pour que la personne en face, vraiment, ce soit la dernière fois que je sois obligée de lui répéter qu'il s'était passé tout ça. Et du coup, ça fait que t'as l'impression de faire de la pédagogie hyper régulièrement, de dire « Bah oui, il s'est passé ça, et oui, c'est grave !» Et d'avoir l'impression que même en faisant des caisses, en disant ce que c'est, bah les personnes, elles se permettent quand même de ne plus s'en rappeler, ou de quand même mettre ça sous le tapis. Et de continuer leur journée comme si elles avaient rien entendu.
C'est un peu de la silenciation par l'essoufflement. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme être face à un marathon tellement grand ou un tel effort à fournir. Parce que c'est pas comme si dire « Ah bah oui, je me suis fait violer, et puis c'était ça, et puis c'était ça, et puis ça m'a beaucoup coûté, et en fait ça m'a défoncé ma vie, c'était particulièrement agréable. » Et donc d'être sans cesse forcé de devoir réannoncer ce qui s'est passé, alors qu'on l'a déjà dit 10 fois, je pense que ça fait vraiment une forme de... ça pousse à des endroits d'abandon. Je pense qu'ils sont d'ailleurs... enfin, moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui, des fois, lâchent que c'est OK. Enfin, que des fois, vraiment, c'est épuisant et que Enfin, c'est bien de reprendre ses forces, c'est bien de faire des pauses, c'est bien de remplir ses batteries, c'est bien d'aller parler à des copains ou à des personnes, des complices qui captent et qui entendent, parce que vraiment, c'est... les gens peuvent construire de telles murailles de déni qu'on a l'impression de devoir les percer à coups de bêche pendant 6 mois et c'est épuisant.
Mmh.
Et je pense que c'est peut-être un type moins violent directement, enfin si c'est hyper violent, mais moins dans une violence explicite, mais qui je trouve est aussi très fonctionnel parce qu'on est fatigué quoi.
Mmh.
Vraiment fatigué.
Puis des fois même à tel point que ça te donne l'impression que ça t'est même pas arrivé. Enfin, des fois, ça met en doute tellement les personnes en face de toi, on a l'impression qu'elles n'ont jamais entendu parler de ça venant de ta bouche.
Mmh.
Des fois, t'es là, mais attends, mais vraiment, ça m'est arrivé ou c'est moi qui délire
Et un truc qui est énorme, moi, je trouve, dans le déni, c'est toute cette ambivalence qu'il y a de des fois, les personnes réalisent et s'en rappellent et des fois plus.
Mmh.
Du coup, des fois, tu racontes et la personne va dire « Ah oui, oui, c'est très grave, je vais en parler à la personne concernée, c'est très très grave. » Et la fois d'après, te réinvite avec comme si c'était rien passé et ont complètement oublié qu'il s'était passé, ou font comme si elles avaient complètement oublié, je ne sais pas, qu'il s'était passé quelque chose. Et par contre, 6 mois après, peuvent d'un coup te ressortir dans une discussion que, en fait, si, il y a eu ça et que, en fait... Ou alors, par exemple, leur propre déni de leur propre violence sexuelle à elles-mêmes, par exemple, vont pouvoir te dire « Ah oui, mais moi aussi, quand j'étais enfant, je me suis fait violer par telle personne. » Et dans une discussion plus tard, quand tu redis bah, « Par exemple, toi, je pense que t'as laissé faire aussi parce que t'avais pas réglé tes propres bails, tes propres problèmes à toi, tes propres violences sexuelles. » Mais j'ai jamais vécu de violence sexuelle. Enfin, ça va être des personnes qui vont être... enfin. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, je trouve, qui revient énormément dans les vécus de personnes qui essayent de parler d'inceste. C'est le comment ça nous fuck le cerveau, le fait que des personnes soient sans arrêt dans l'ambivalence de « je me souviens, je me souviens plus, je te crois plus, j'aggrave complètement les choses, puis après je minimise complètement ». Il n'y a pas une ligne claire, c'est, enfin, moi j'ai l'impression d'entendre assez rarement des histoires où les personnes ont dit « oui, je reconnais » et on continue à reconnaître tout du long, ou « non, c'est pas vrai » et on dit « non, c'est pas vrai tout du long », c'est
un
vraiment
coup oui, un coup non.
Un coup oui, un coup non. Un coup, on te fait passer à la place de la victime, un coup, on te fait passer à la place de la personne coupable, un coup, on te parle de ses propres violences sexuelles, un coup, on oublie complètement. Enfin,
c'est vraiment l'ambivalence. Et ça en crée aussi chez nous. Déjà, on doit lutter contre notre propre... Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure de ça fait douter. J'ai l'impression que ça fait douter de si ça s'est passé. Et en tout cas, moi, j'avais envie de rebondir et dire que ça fait aussi douter. En tout cas, si ça fait pas douter que ça s'est passé, c'est sûr que ça fait douter sur la gravité. Parce que... un coup, ça passe comme fromage avant le dessert. Un coup, c'est un drame où il faut tenir ta mère dans tes bras qui pleure en s'excusant. La semaine, et puis ensuite, qui t'invite 2 jours après à prendre un repas avec la personne. T'es en mode, mais et moi, je trouve que ça fait une forme d'incohérence qui empêche de se sentir au clair avec soi-même sur son propre ressenti, son propre récit. Ça amène à devoir toujours prendre en compte les réalités hyper flexibles des autres. Et se faire exister dans sa propre perception de soi-même par rapport à ça, ça devient extrêmement difficile.
Et ça demande de ouf de jouer des coudes un peu pour pouvoir élaborer son propre vécu et pour savoir où on se situe et qui sont les personnes qui reconnaissent qu'on a vécu ça et qui sont les personnes qui nous silencient de manière évidente. Le fait qu'il y ait cette ambivalence, ça c'est hyper déstabilisant, quoi.
Et souvent, je connais beaucoup de personnes victimes d'inceste qui se sentent pas forcément légitimes à se dire victimes d'inceste parce qu'ils ont elles-mêmes beaucoup de doutes. Mais du coup, ça revient à ce que vous disiez, mais que du coup, ça empêche de soi-même se sentir légitime, soi-même complètement sortir du déni et se sentir complètement légitime. Du coup, ça a des conséquences quand même très graves, ces trucs de déni, d'indifférence. Et après, je pense tous les trucs d'oubli, de déni, de normalisation, c'est aussi, mais ce qu'on disait déjà dans les trucs de banalisation, minimisation, de tout le monde a découvert la sexualité avec ses cousins, oui, bon, c'était du touche-pipi, toutes ces choses-là, ça rentre aussi dans une forme de déni, de ça n'existe pas, ou en tout cas, ce n'est pas grave, ou ce n'est pas de l'agression sexuelle, ce n'est pas de l'inceste.
We'll guess they should have known, 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 known. Flowers gonna bloom, 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 bloom. Smoke is gonna rise, 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 rise. Chum out the cocoon, 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 cocoon. Why you didn't grow? No, I don't know. It's making me think that I was wrong. It's making me so emotional. I'm coming out like I'm 9 months pregnant. Plane tickets, I could grant your wishes. Driving off the cliff, cause you're giving mixed signals. What's the rhythm? What's the rhythm? Since we're ready here, I guess we just go. Why you didn't grow? Nah, I don't know. It's making me think that I was wrong. It's making me so emotional.
Quand j'ai capté que mon oncle agressait une autre personne, son fils, j'ai décidé d'envoyer un mail à ses parents, donc mes grands-parents, pour leur parler de responsabilité familiale, de complicité dans le système inceste, etc., etc. Franchement, c'était un mail assez tranquille. Je me souviens juste à un moment d'avoir dit « Si votre amour est pas capable de protéger les gens, votre amour, c'est de la merde. » Et je pense que c'est le plus fort que je suis allée. Et j'ai reçu deux réponses. Une de mon grand-père qui était très très courte, qui faisait genre 5 lignes, en mode « bien reçu, mais manquer de respect à ses grands-parents, c'est se manquer de respect à soi-même ». Ce qui bon, n'a pas vraiment de sens, mais d'accord. Et une immense lettre de ma grand-mère qui disait « d'accord, ma chérie, merci d'avoir partagé tout ça ». Et ensuite qui partait dans une longue description de ce qu'elle avait fait cet été, des tartes qu'elle avait cuisinées, de comment allaient tous mes cousins, cousines, blablabla, blablabla, en disant, en finissant en mode « j'espère que t'as passé un bon été, ma petite chérie, je t'aime très fort, bye bye ». Et voilà, c'était les deux réactions à la confrontation.
Chose dont on avait envie de parler, une autre catégorie qu'on a appelée dissonance, mais peut-être ça fait aussi du lien avec un peu l'ambivalence dont on parlait plus tôt. Par exemple, ça peut être un adulte qui parle beaucoup d'inceste à son enfant, qui lui dit moi j'ai vécu de l'inceste quand j'étais enfant, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal, telle personne m'a violée à tel moment, ou m'a fait ci ou m'a fait ça à tel moment, c'est vraiment très grave. Du coup, toi, vraiment, si à un moment des gens te touchent dans la famille, tu me le dis. Si des personnes te font ça, t'hésites pas à m'en parler, je te croirai toujours. C'est toujours toi que j'écouterai, c'est toujours toi que je croirai. Et qu'en fait, c'est ce même adulte-là qui nous agresse, qui nous inceste et qui ne nous croit pas, bah, ça peut aussi faire des énormes bugs dans la tête de en fait, je suis en train de me, enfin déjà de pas voir ça, bon, c'est pas forcément de la sensation, mais ça aide pas à comprendre ce qu'on a vécu. Et en fait, quand même on l'a compris, c'est hyper dur d'en parler parce qu'on a la sensation de... C'est un peu des formes de gaslighting, de mensonges ou de manipulations qui sont pas forcément conscientes. Tous les mécanismes dont on parle là, les personnes qui font vivre toutes ces silenciations sont pas forcément conscientes que c'est ça qu'elles sont en train de faire, c'est pas ça qu'on dit. Mais que ce soit conscient ou inconscient, ça fait cet effet de nous fucker le cerveau, encore une fois, parce qu'on a confiance en cette personne. On se dit, si nous on vit ça, on pourra pas le vivre parce que cette personne est là pour nous protéger, et si on le vit, cette personne nous croira et nous écoutera, et qu'en fait souvent c'est cette personne là qui nous écoute pas, c'est horrible, quoi.
Et de cette même manière, la dissonance, ça peut aussi être, par exemple, une famille qui met beaucoup d'efforts à complètement saturer l'espace de parole en portant un discours de « Ah là là, quelle famille merveilleuse, vraiment, quelle bonne entente, oh là là, tes cousins, cousines, ils sont beaux, elles sont belles, ils réussissent à l'école. » Du coup, toi, t'intériorises une espèce d'image de qui sont les gens qui forment ta famille. Et qu'au final, ces personnes sont aussi des personnes qui commettent de l'inceste sur des membres de cette même famille. Mais étant donné qu'il y a un discours hyper martelé de « cette famille fonctionne, cette famille est super », c'est hyper compliqué d'y voir clair et de se dire « bah, en fait, on m'a tout le temps raconté que cette famille, elle fonctionnait bien, mais c'est cette même famille qui fait des agressions et de l'inceste ».
On n'a pas beaucoup parlé dans cette émission de la silenciation qui est faite par la personne agresseureuse, mais c'est pas pour minimiser son importance, mais on avait aussi envie beaucoup de parler des réactions plutôt des adultes autour. Mais la dissonance, c'est aussi forcément un outil très très fort, souvent dans les manières de la personne qui agresse, parce que souvent c'est une personne qui se présente comme amie, alliée, complice, protecteur, protectrice, et toute une suite de choses que on est, les adultes ou des personnes plus âgées ou des personnes référentes ou je sais pas, sont censées être dans la famille. Et par ailleurs, c'est des personnes qui agressent, menacent, font violence, terrorisent, empêchent de vivre un peu en se sentant en sécurité. Et ça, c'est un peu la dissonance fondamentale qui traverse plein de récits d'agression sous plein de formes, mais que quelqu'un qui te dit qu'il t'aime ou qu'il est là pour toi te fasse autant de mal, et ce mal-là, enfin, je pense que la dissonance, ça fait des bugs. On a beaucoup utilisé le mot bug, et c'est du silence créé par le bug, quoi, le cerveau qui n'arrive pas à interpréter la situation et de mettre les gens à leur place et de reconnaître les dangers et les complices, quoi.
Et après, peut-être ça fera l'objet d'une prochaine émission, mais la dissonance, quand elle arrive aussi dans des cerveaux de jeunes personnes, bah, y a un truc où c'est des mécanismes après qui s'intériorisent et qui s'apprennent, et où du coup aimer ou être aimé ou avoir des relations proches ou intimes tout en se faisant violenter, ça devient un fonctionnement qui peut être intériorisé par la personne. Ça, c'est une des conséquences de l'inceste, une des conséquences de la silenciation sur ce mode-là de la dissonance, de faire passer une chose pour une autre, et tout est maquillé et tout est mélangé.
Donc dire à sa famille, moi ça fait 15 ans en fait, la première fois que j'ai écrit une lettre, et pendant, en fait, j'ai eu pas un retour très clair, ça a été assez... Je suis d'une famille en fait déjà catho-bourgeoise, et peut-être que ça c'est intéressant, parce que c'est pas tous les témoignages que vous avez qui vont dire ça, la chape de la religion rajoute une couche en fait à la silenciation. On le voit avec le rapport de la SIAZ et dans la presse. Ça fait 2 ans que le rapport est sorti, et en fait c'est misérable, parce que en réalité le silence, il est dur comme fer et continue. Donc moi je sens ça et c'est pas fini pour moi. Pourtant ça fait 15 ans, j'ai commencé à dire il y a 15 ans. Pendant 2 ans, je pouvais plus voir ma famille parce que je sentais bien qu'en fait le tabou il restait là, même si d'une oreille on entend. Puis au bout de 15 ans, au bout de 2 ans, j'ai refait l'effort de retourner vers ma famille. Et puis comme si de rien n'était, on repart comme en 40 sans les voir trop. Et là, depuis 2 ans que je suis allée à la civis, pour moi c'était crever ou être en entier. Donc j'ai eu besoin de remettre une couche, de parler du sujet à ma famille de façon détournée, justement de parler à travers de ce qui se passe dans l'église. Parce que je sentais bien que c'était compliqué même pour moi d'en parler dans ce cercle clos. Et du coup, j'en ai reparlé. Et là, actuellement, ma mère, de toute façon, pour elle, il ne s'est rien passé. Et puis dans les 15 ans qui se sont passés, elle a retenu d'il y a 15 ans que en fait c'est mon mari qui avait accusé mon père qui est mort depuis longtemps, alors que c'est moi qui avais écrit le courrier. Et peut-être dire une chose qui m'a beaucoup aidée, mais en fait il m'a fallu une parole avec moi. Je crois que c'est ça. Pour dire à ma famille, j'ai besoin de la parole des autres pour être crue. Donc quand il y a 15 ans j'ai écrit, mon mari a envoyé, parce que je lui ai dit, ça m'a aidé, le bouquin d'Eva Thomas, Le viol du silence, Eva Thomas, qu'on a vu sur ces rencontres-là. Ouais, pour être cru, comme si ma parole ne suffirait pas. Et là, actuellement, si je parle de la SIAZ à ma famille pour essayer d'être mieux comprise, c'est parce que je me rends compte que dans le système familial, en fait, rien ne bouge. En fait, là, ils m'ont récemment, je leur parle plus depuis quelques mois parce que je sens qu'en fait, il y a un endroit, ça ne comprend pas. Et là, il y a 2 jours, j'ai reçu, je leur parlais pas, mais là, pour une papier administratif, mon frère m'a relancé. Et la réponse très catho, c'est bon, prends ton temps pour être en paix, un peu, ben voilà, reviens quand t'es zen.
T'es dans cette pièce, t'es dans cette pièce, je me cache. Je suis prise au piège, surtout je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre, sous, je ne suis pas libre, sous ce regard. Et sur le qui vive, toujours, et sur le qui vive, toujours ça me gâche. Papa, fallait papa venir trop près de moi. Maintenant je sais plus très bien qui t'es. Sous cet œil tout, je le vois lourd.
Ben, quand on s'approche de la fin, on s'était dit que c'était pas mal de parler d'une dernière catégorie, un peu différente des autres. On l'a appelée auto-censure et auto-silenciation, dans le sens où c'est quand on en arrive à un stade d'intériorisation de tous les processus de silenciation qu'on a vécu, et en fait, bon, ça peut arriver assez vite, où on n'a plus besoin d'avoir des rappels extérieurs sur pourquoi se taire. On les crée nous-mêmes, on entretient notre propre processus de silenciation. Attention, quand je dis ça, je dis pas ça en disant on est complice de son processus de silenciation, juste de fait, contre notre gré, on se retrouve à y participer. Et par exemple, enfin, une des raisons qui peut faire qu'on ne parle pas sans que qui que ce soit ait besoin de nous le dire, c'est que comme on a vécu énormément de réactions foireuses ou de non-réactions ou d'interactions bizarres autour de l'inceste et du fait d'en parler, on se retrouve à avoir du mal à le dire parce qu'on a peur, on n'a pas confiance dans ce que les gens vont en faire. Quand on parle d'inceste, c'est aussi un moment de mise en jeu intense, un moment où on se met en danger et il y a besoin, on sait qu'on a besoin d'une forme d'attention et de soin à notre histoire et à ce qu'on en dit. Et quand on sait qu'on va pas du tout recevoir ça, quand on sait que c'est plutôt l'inverse qui va se passer, et ben on peut facilement avoir tendance à ne rien dire plutôt que se prendre de la merde dans la tête. Moi, je sais que par exemple, une fois, j'avais dit à la mère de mon oncle, donc à ma grand-mère, que je souffrais beaucoup de ce qui s'était passé, mais que j'avais besoin pour le moment, elle en parle à personne parce que j'étais pas du tout prêt à ce que ça pète dans la famille. Et 2 semaines après, j'avais reçu un message de mon oncle, donc mon agresseur, qui me disait qu'il voulait en parler avec moi. Et ça m'avait lancé dans un tourbillon de mal-être assez fort. Et ça m'avait empêché. Après, j'en ai pas reparlé pendant des années. Parce que le fait de déposer cette histoire dans les mains de quelqu'un et que mon consentement, encore une fois, soit pas respecté, ça m'avait complètement éclaté et ça m'a empêché d'en parler pendant fort longtemps encore.
Et je pense que c'est pas juste quand il y a eu des réactions foireuses liées à l'inceste, c'est si, globalement si on n'a pas confiance dans les adultes de notre famille parce qu'on a essayé de parler d'autres choses à d'autres moments, rien à voir, ou d'autres gens ont essayé de parler d'autres choses à des moments, rien à voir, et on a vu les réactions foireuses, du coup c'est ça. Soit les gens qui se saisissent de ton histoire pour en faire des choses que t'as pas, enfin sans te demander ton avis, mais toujours le truc de je fais pour ton bien plutôt que je fais ce que toi tu me dis que ça serait bien pour toi. Enfin, c'est toutes les personnes, souvent les adultes, les parents qui présupposent qu'est-ce qui te ferait du bien et qui du coup font et agissent à ta place et du coup te retirent le contrôle de la situation. Du coup, quand ça se passe, même sans parler d'inceste dans ta famille, bah effectivement c'est plus dur de te dire que quand tu vas parler d'inceste, tu vas pouvoir retrouver du contrôle.
Grave. Et ouais, c'est comme si inconsciemment on anticipait chacune des réactions foireuses auxquelles on devrait s'attendre, donc toutes celles dont on a déjà parlé, mais à la fois l'envie que ces choses-là se sachent pour pouvoir être finalement protégée, mais une peur panique de à quelle sauce on va être mangé, quoi.
Et du coup, c'est toutes les choses aussi qu'on a discuté de culpabilisation déjà, enfin de, on a peur de faire éclater la famille, on a peur de choquer, on a peur de se tromper, on a peur de, on reconnaît pas chez nous-mêmes vraiment les symptômes du stress post-traumatique qu'on peut avoir, on le met sur le dos d'autres choses, ou enfin, voilà, c'est tous les trucs que soit on s'en rend même pas, enfin on n'ose pas se croire. On n'ose pas se croire, soit on se croit mais on n'ose pas en parler pour énormément de raisons, toutes les raisons qu'on a déjà citées. Il y a aussi des clichés classistes, racistes, validistes dans la société autour de l'inceste, enfin où on voit un peu, on a l'impression que ça se passe que dans des familles pauvres, avec des personnes qui n'ont pas été à l'école ou des choses comme ça. Et du coup, quand on est issu de ces familles-là, en fait, c'est compliqué aussi de parler à sa famille parce qu'on se dit si jamais ça explose et que ça sort du cadre familial, on peut et avoir envie de ça et se dire que en fait on va remettre du cliché sur sa propre famille, réentrer dans les clichés racistes, classistes, validistes, enfin etc. quoi, toutes les oppressions. Et du coup des fois voilà, on n'a pas envie de correspondre aux clichés que toute la société attend de nous, enfin, surtout quand on a des grilles de lecture. Enfin, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que plus je me suis politisée et que je suis devenue féministe et anarchiste, etc., bah, j'avais de plus en plus en tête tous ces clichés-là et que j'avais de moins en moins envie de donner, du grain à moudre pour des personnes qui pourraient se réapproprier ça sur des. Voilà, pour faire vivre leur propre classisme, racisme, etc.
Et dans ce truc de. De l'auto-censure et l'auto-silenciation, il y a aussi la peur de perdre l'agresseur qui, malgré tout, existe à une place particulière. Et quand il y a de l'inceste dans une famille, ça fait quand même que cet agresseur nous montre de l'intérêt. Quand bien même c'est de la violence sexuelle, ça fait qu'on existe aux yeux d'une personne et que ça a une fonction dans une famille qui est dysfonctionnante. Et que ça peut être ça aussi, l'intérêt pour la victime de garder le silence, c'est de continuer à exister dans les yeux d'une personne, quand bien même cette personne, elle nous agresse.
Oui, c'est tous les trucs d'ambivalence liés à l'emprise aussi que peuvent avoir les agresseuses sur nous-mêmes. Ouais. Parce que c'est souvent les situations d'inceste, c'est quand même souvent des situations qui ont lieu sur des enfants. Et du coup, quand on est enfant, il y a quand même tout un truc de dépendance face à la famille, de survie, et du coup on rentre aussi dans, enfin voilà, c'est tous les mécanismes d'emprise et de dépendance qu'on peut avoir avec les adultes, même s'ils nous font du mal à un moment, même s'ils nous violentent. Et c'est difficile de sortir de cette emprise et de se dire que non, c'est pas normal, et que oui, on a le droit de parler, et que et que c'est pas à nous de protéger les adultes qui nous ont violentés ou les personnes qui nous ont violentées.
Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi important de parler de la silenciation, c'est qu'elle vient de l'extérieur. Mais je pense que le truc qui fait le plus de mal, c'est de se rendre compte qu'on l'a intériorisé fort, et des effets qu'elle a sur notre rapport à la parole et notre rapport aux autres et à notre famille en général. C'est des choses, enfin moi j'ai l'impression, plus que l'inceste, c'est l'intériorisation de la silenciation qui a niqué aussi énormément mon rapport à la famille et ma capacité à dealer avec ma famille. Parce que mon oncle, par exemple, je sais que pendant très longtemps j'ai voulu le protéger des effets de ce que moi j'aurais pu provoquer en parlant d'inceste. Et c'est quand même, je trouve que c'est une espèce de boucle ahurissante, que je voulais le protéger des effets de ce que lui m'avait fait. Et pour en arriver là, c'est bien la preuve de la force d'un système quand même très fonctionnel.
Moi, ça me fait penser au fait que pendant des années, je ne me suis pas rappelée des faits de violence sexuelle que j'avais subis, d'inceste. Aussi parce que c'était tellement, ça faisait tellement partie d'un ensemble de pratiques normalisées au sein de ma famille que l'autocensure, elle était hyper intériorisée. Genre, mon cerveau m'a pas indiqué que ce qui s'était passé était quelque chose d'anormal, mais tout ça était du même côté de la normalité de « c'est comme ça que c'est possible d'avoir des relations avec des personnes de notre famille ». Et du coup, il y a un truc de l'autosilenciation qui part de loin, quoi.
Et moi, je pense à un truc qu'on a déjà dit aussi, mais qui joue, c'est que je pense qu'on sent que peut-être si on parle, alors le sujet va vraiment exister, et alors on est plusieurs, je pense, à ressentir que tant que c'est pas nommé, on peut dealer avec notre famille, on peut continuer à les voir, on peut aller au repas de famille, on a le seum, mais on garde sur nous, et c'est très difficile comme situation, mais voilà. Mais une fois qu'on parle, on soupçonne déjà, on est plusieurs à déjà soupçonner que si c'est pas entendu, on va pas se taire, on va plus se taire, en fait. C'est trop tard, comme on lance une pièce dans la machine, et que une fois qu'on a lancé cette pierre et qu'on a été clair et qu'on a dit voilà, ça s'est passé, telle personne m'a insisté, qu'est-ce que vous en faites, et qu'il se passe rien, ou qu'il se passe des réactions pourries, ça peut faire un engrenage, et on a peur de cet engrenage, parce que je pense qu'on est plein à avoir peur de la rupture familiale aussi. La question, elle est forcément présente à un moment ou à un autre de quand toutes les réactions sont foireuses, de est-ce que je fais rupture ou pas. Surtout quand, ça me faisait penser à autre chose, c'est quand c'est difficile de parler des fois quand toutes les personnes, par exemple moi j'ai une petite famille et toutes les personnes sont impliquées, vraiment très impliquées. Je veux dire, il n'y a pas un grand-oncle qui aurait pu être vite fait un peu témoin mais pas vraiment complice et à qui je pourrais parler. Il y a mes parents et ma fratrie, et c'est tout. Et du coup, en fait, je parle à qui quand mes deux parents et ma fratrie, quand tout le monde est directement concerné par cette situation d'inceste. Et du coup, la question de la rupture familiale, à un moment, se pose forcément. Et en fait, je pense, en fonction aussi de... Enfin, je pense que c'est une question qui est difficile pour tout le monde.
Ouais.
C'est très difficile pour tout le monde, surtout dans nos sociétés. On est vraiment... La famille, c'est ce qu'on a dit, quoi. La sacralisation de la famille, c'est très compliqué à critiquer. Critiquer la famille comme institution, c'est très compliqué dans nos sociétés. Et du coup, de risquer cette rupture familiale, il y a aussi plein d'autres choses qui rentrent en compte. Par exemple, si, je sais pas... Il y a des personnes qui vivent dans certaines communautés qu'elles savent que si elles quittent cette famille, elles n'ont plus accès à cette communauté. Ou il y a des personnes qui... c'est ça, la famille, c'est le seul endroit où elles retrouvent des trucs de culture qu'il n'y a pas forcément dans leur entourage à côté. Ou certains privilèges, par exemple, qui sont étudiants et qui ont de l'argent tous les mois de leurs parents pour payer leur loyer. La rupture familiale, ça implique des choses. Enfin bref, et après, il y a tout un tas d'autres raisons qui fait qu'aussi c'est compliqué de parler, parce que c'est compliqué l'imaginaire de la rupture familiale. Et on sait soi-même qu'une fois qu'on déclenche le truc... On saura pas forcément l'arrêter, parce que c'est gros, quoi.
Donc pour le contexte, moi c'est mon père qui m'a abusée. Quand j'ai été comment dire, en fait j'ai pas confronté ma mère directement là-dessus, mais je lui ai juste posé des questions sur cette période de ma vie, etc. Et quand elle me disait qu'elle voyait pas ce qui s'était passé, qu'elle me donnait pas d'explications sur le fait que notamment j'ai été changée d'école, j'ai été mise chez les psys, etc., je lui ai dit moi je sais qu'à cette période j'ai été violée. Et c'est elle qui m'a dit oui, par ton père. Donc d'une part, voilà, j'ai découvert qu'elle était au courant et qu'elle avait non seulement pas protégé et pas dénoncé. Et là, sur le moment, elle m'a tout de suite dit on va se battre, on va aller voir l'avocate, je vais le quitter, je vais me battre pour toutes les femmes, etc. Et pourquoi je parle de je reviens sur la silenciation, c'est que derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a appelé ma sœur et mes proches pour leur dire que j'étais en délire paranoïaque, qu'il fallait sans doute me protéger de moi-même et peut-être même m'interner, etc. Et je reviens même à me demander si cette histoire d'aller voir une avocate et de virer mon père, elle a même peut-être jamais existé. Et en tout cas, je prends conscience de combien ces actes physiques de la part de mon père, ils ont pu avoir lieu que grâce à la complicité de ma mère et des personnes plus élargies autour.
On se retrouve pour un dernier petit morceau de contenu. En fait, après avoir écouté là, tout ce qu'on a pu raconter pendant les trois émissions, il y a certaines thématiques qui nous paraissaient importantes de ne pas laisser de côté. Du coup, on essaye de vous faire un petit condensé des quelques points qu'on veut quand même faire apparaître là dans l'émission. On a beaucoup parlé de la silenciation faite par la famille, les mécanismes mis en place par les systèmes famille, etc. On s'est dit là que c'était quand même important de venir aussi parler de comment l'agresseur et l'agresseuse peuvent eux aussi mettre en place des mécanismes de silenciation, par exemple en véhiculant une espèce de mythologie d'un amour impossible, en disant que ce que la personne a avec sa victime c'est quelque chose de spécial, que du coup ça doit rester caché, etc. Du coup ça peut être un des mécanismes qui fait que l'agresseur met au silence ses victimes.
Au même titre que toutes les autres catégories, évidemment, pour silencier. Ouais. On en a un peu parlé, mais c'est vrai qu'on s'est plus concentré sur les autres membres de la famille, la silenciation des autres membres de la famille.
Et du coup, par rapport à ça, on s'est dit qu'il y avait quand même un énorme truc qu'on n'avait peut-être pas suffisamment mis en mots, mais les mécanismes d'emprise, on l'a dit à certains moments, mais on veut vraiment le redire que la plupart du temps, quand il y a de l'inceste, il y a de l'emprise.
Là, on a parlé aussi, on a un peu défini chaque chose en catégorie, culpabilisation, déni, etc. Et après, on trouvait important de redire aussi que ça dépend comment est constituée la famille, comment, à quelle place t'es dans cette famille. On en a parlé un peu à différents moments, mais par exemple, un des mécanismes aussi qu'on a retrouvé à plein de moments, c'est les adultes qui cassent la solidarité, par exemple dans la fratrie, donc te mettre en concurrence avec tes frères et sœurs ou dénigre tes frères et sœurs et à tes frères et sœurs te dénigre toi. Une des choses qui rend plus compliqué le fait de se sentir légitime de parler, d'être écouté, d'avoir des complices, c'est évidemment quand tu n'as pas des bonnes relations avec les autres membres de ta famille. En fait, si tu te retrouves à être plusieurs enfants ou frères et sœurs ou cousins, cousines, à avoir vécu la même chose et à bien t'entendre et à pouvoir en parler et à être complice, ça va être plus facile de t'attaquer aux agresseuses et à toutes les personnes qui n'ont pas réagi que quand tu te retrouves seule avec aucune complice dans ta famille. Et ça, en fait, c'est des mécanismes aussi que les adultes peuvent mettre en place de vraiment dénigrer tous les autres membres de la famille, y compris ta fratrie, etc. Une des choses aussi qu'on avait envie de nommer, qu'on a l'impression qu'elle existe souvent, mais qui pourrait faire l'affaire vraiment d'une émission, qu'on aurait envie d'en parler bien et de prendre vraiment le temps, mais c'est que quand t'as été victime d'inceste, quand t'as grandi dans une famille incestueuse, quand tout le rapport à la sexualité, il est vraiment complètement déconnant, quand les rapports à tes propres limites, à ton propre consentement, tout est déconnant, ça peut arriver que toi aussi, en tant qu'enfant par exemple, tu aies reproduit des choses, soit des choses qu'on t'avait faites, soit voilà, des dépassements de limites, des dépassements de consentement, parce que aucune conscience de c'est quoi le consentement, les limites de l'intimité de l'autre, ton intimité, etc. Et on s'est rendu compte que c'est des choses aussi qui créent de la culpabilité pour soi-même et qui font que parfois c'est compliqué de parler parce que on a peur de soi-même être envoyé à ce qu'on a fait ou de devoir regarder soi-même les choses qu'on a faites. On a l'impression, voilà, que dans le système inceste, c'est plus compliqué souvent que juste des victimes et des bourreaux. C'est un peu plus. On sait que beaucoup de personnes qui reproduisent sont des personnes qui elles-mêmes ont été victimes. Ça veut pas dire qu'il y a pas de responsabilité. Ça veut pas dire. Enfin là, on n'est pas en train de dire c'est pas grave si t'as reproduit des choses sur ta fratrie, sur des amis, sur des cousins, cousines, etc. Juste, il faut le regarder en face. Il faut prendre ses responsabilités, il faut essayer d'écouter, surtout ne pas silencier, écouter, prendre ses responsabilités, réparer. Mais ça ne doit pas empêcher non plus de voir soi-même ce qu'on a vécu et de pouvoir aussi en parler, aussi avoir des espaces où on peut être voilà, aussi se réparer soi-même. Ensuite, encore sur la place que tu as dans ta famille, où on avait envie de rappeler que voilà, on peut être l'aîné de la famille et se faire incester, on peut être un mec cis et se faire incester, on peut avoir une mère qui nous a incesté, et en fait tout ce qui sort un peu des clichés de tel qu'on voit l'inceste, de le père qui inceste la petite fille, ça peut être encore plus dur à nommer, à se faire entendre, à se faire protéger, parce que dès que ça sort un peu de l'imaginaire qu'on peut avoir de l'inceste, on a l'impression qu'en fait on est moins légitime, alors qu'en fait non, on peut être un petit garçon et se faire incester par sa mère, ça existe. Une dernière chose encore, des fois les familles, une des mythologies familiales aussi, ça peut être qu'il y a une victime et un agresseur dans une famille, et du coup on a la sensation que voilà, c'est un accident, il y a une victime, un agresseur. La victime, par exemple, si c'est ta mère ou quelqu'un de proche de toi, bah, tu vas tout mettre sur... c'est cette personne qui a été victime. Et du coup, déjà, ça peut empêcher de voir que soi-même, on est aussi victime, parce qu'on n'a pas envie de prendre la place de l'autre victime, ou on n'a pas envie de sortir de cette mythologie-là, que c'est cette personne-là qui est victime. Alors qu'en fait, souvent aussi, cette mythologie-là dans les familles, elle vient empêcher de voir que c'est pas un accident, l'inceste, c'est un système. Il y a souvent pas une victime, il y en a souvent plusieurs. Il y a souvent pas un agresseur, il y a souvent plusieurs agresseuses. Et du coup, voilà, des fois, les familles ne silencient pas un inceste, mais silencient tous les autres autour. Et on tient à rappeler aussi que, quand bien même on n'est pas victime directement, quand bien même on n'a pas eu d'abus sexuel sur son propre corps par un agresseur, si on vit dans une famille incestueuse, si on a été témoin de scènes d'inceste, on est aussi touché par l'inceste, on a aussi vécu de l'inceste. Ou par exemple, quand on est un membre de la fratrie et qu'on a été témoin, qu'on a été présent lors des agressions d'un autre membre de sa fratrie, c'est choquant, c'est traumatisant aussi, c'est aussi de l'inceste. En même temps que rappeler aussi, évidemment, parce que c'est des phrases qu'on trouve tellement clichés qu'on n'en a même pas forcément parlé dans cette émission, mais il y a aussi beaucoup de gens dans les familles qui disent... On peut bien vivre l'inceste, il y a de l'inceste consenti, les enfants ont leur propre consentement, il peut y avoir des incestes heureux, regarde ta sœur, elle l'a bien vécu, pourquoi tu ouvres trop ta bouche, etc. On rappelle qu'il n'y a pas d'inceste heureux, il n'y a pas d'inceste consenti, il n'y a pas d'enfants qui le vivent bien.
Bitch, that I love the one click, don't touch, but I'm on top of my curse. Bitch, that I love the one click, don't touch, but I'm on top of my curse. Bitch, that I love the one click, don't touch, but I'm on top of my curse. Bitch,
On se retrouve pour la conclusion de ces trois émissions sur la silenciation de l'inceste. Alors, les musiques qu'on a entendues sur cette dernière émission, c'était O70 Shake, Cocoon. La deuxième musique, c'était Le Loup de Meilan. La troisième, c'était Coucou Chloé, Nobody. La musique qui faisait un peu toutes les quelques notes tout au long de l'émission, qui s'appelle Diebold de Vegin. Et aussi, dans l'introduction de la première émission, on avait oublié, mais il y avait Ragana, You Take Nothing.
Dans cette conclusion, on tient à remercier toutes les auditrices de nous avoir suivis pendant ces 3 heures. On a conscience que c'est des sujets quand même difficiles qui ont été abordés. Pour nous aussi, ça a été intense de faire cette émission. Ça nous a permis de prendre conscience de plein de nouvelles choses aussi, de rendre plein de choses implicites, explicites. C'était un peu ça, la démarche globale.
On a aussi beaucoup brassé nos propres histoires aussi pendant la création de ces 3 émissions.
C'est clair.
Et dans une intention globale, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de, voilà, à la fois prendre soin de nous, des personnes qu'il y a autour de nous qui sont aussi victimes de ça, mais aussi pouvoir filer des outils à d'autres personnes qui sont aussi concernées par ces thématiques-là et qui peut-être n'ont pas encore eu le temps ou pris le temps de réfléchir à toutes les thématiques que nous, on a pu brasser. Et du coup, voilà, un espèce de partage à la fois d'expérience et de propositions de comment réfléchir et analyser ce qui traverse les familles et les personnes touchées par l'inceste et voilà, avec un but à la fin de quand même réussir à faire que ces violences sexuelles sur les enfants dans les familles, elles aient beaucoup moins lieu, quoi, en les comprenant mieux.
Et aussi, c'était un peu pour prévenir aussi, quand on commence à parler dans nos familles, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui va se mettre en place pour nous faire taire, et du coup, ça, on espère que ça peut vous aider si vous êtes à cet endroit-là de commencer à réfléchir à parler ou d'avoir commencé tout juste à parler. On espère vraiment que ça va vous donner plus de poids pour comprendre c'est quoi qui est en train de se jouer en face, pour vraiment vous dire que c'est pas de votre faute, c'est pas vous qui vous exprimez mal, c'est pas vous qui n'êtes pas assez, je sais pas, pédagogue ou... Non, vous êtes face à un système qui s'appelle le système famille, et c'est comme ça, malheureusement, dans toutes les familles, et peut-être il y en a des pires que d'autres, mais voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous donner un peu de la force pour comprendre ce qui est en train de se passer et pour pas vous mettre la responsabilité sur vous.
Et sur un point un peu plus immédiat, pour les personnes là qui nous écoutent tout de suite, on arrive bientôt vers la fin, et je sais pas si vous avez écouté les 3 émissions d'affilée ou si vous en avez écouté depuis plusieurs semaines et que vous prenez le temps d'intégrer les infos, mais en tout cas, quelle que soit la situation, moi j'avais envie de dire, enfin on avait envie de dire qu'on sait que ça brasse, que, enfin c'était pas une émission facile à écouter, mais pas seulement parce que l'inceste c'est un sujet difficile, mais aussi parce que peut-être vous avez découvert des choses que vous aviez pas captées en nous écoutant, peut-être que c'est allé gratter dans des endroits que vous aviez pas encore regardé. En tout cas, nous, ça nous a fait ça, et on avait envie de rappeler que là c'est aussi hyper ok d'essayer de prendre soin de vous, de trouver des endroits un peu de douceur, et s'il y a des choses intenses qui se passent au niveau de votre tête, de votre corps, et ben de laisser aussi le temps à ces trucs là de décanter, de pas se précipiter, de prendre le temps d'enregistrer ce qui s'est passé, et en attendant, je sais pas, de regarder des dessins animés, de manger de la glace ou peu importe ce que vous faites pour vous faire du bien, ou de passer du temps avec des copaines, ou d'aller gueuler en haut d'un toit, je sais pas, mais en tout cas de vous laisser le temps de prendre soin de vous, quoi. En tout cas, nous on va faire ça. Maintenant, on va prendre une petite pause.
On va faire une décolo.
C'est ça, on va prendre des vacances.
Si l'on pouvait vraiment parler, je te décrirais mes poupées, qui ne sont plus que des chiffons, mais je me souviens de leurs noms et des secrets qu'elles racontaient. Si l'on pouvait vraiment parler, je te décrirai la maison où mon père m'a embrassée. Peut-être plus que de raison, si l'on pouvait vraiment parler, si l'on pouvait vraiment parler, si l'on pouvait vraiment parler.
dans cette émission, on s'est vraiment concentré sur la silenciation de la famille et un petit peu de l'agresseureuse, mais surtout de la famille autour. On aimerait beaucoup parler aussi de la silenciation du reste du monde, de toutes les institutions, des médecins, des professeurs, de la police, de la justice, de tout ce qui se passe en dehors des médias, de tout, de nos proches aussi, qui à des moments on essaye de parler et juste ça marche pas du tout et les personnes n'ont pas du tout envie de nous écouter parce que c'est trop gros ou parce que ça vient leur raviver leurs propres choses ou peu importe les raisons. Des fois on se dit peut-être c'est pas très grave que tel médecin n'ait pas exactement compris ce qu'on voulait dire la première fois qu'on l'a dit, mais en fait ça vient raviver justement tout ce qui s'est passé déjà dans la famille, tout ce qui s'est passé déjà quand on était enfant, enfin c'est que des choses qui ravivent en permanence. Du coup ça vaudrait le coup aussi de faire une émission là-dessus. On s'est dit qu'un jour on aimerait parler aussi des conséquences que ça a, cette silenciation sur nous, dont on a déjà parlé du traumatisme de cette silenciation, d'avoir pas été protégé, mais aussi de toujours pas être protégé, de toujours pas être entendu, de toujours pas être cru. C'est énorme et ça fait beaucoup de mal dans le reste de nos vies à plein d'endroits, comme par exemple des fois d'avoir peur du conflit, par exemple dans des groupes, de se dire que si là on amène du conflit, c'est nous qui allons nous faire dégager. À des moments avec des amis, de pas être cru sur, je sais pas, sur juste la météo qui fait aujourd'hui et comment ça peut nous raviver un sentiment de pas être entendu. Bon voilà, il y a énormément de conséquences et ça vaudrait le coup de prendre le temps d'en parler. Oui. Nous, on a envie vraiment d'analyser où ça vient se loger après dans le reste de nos vies, cette silenciation-là qu'on a eue au niveau familial de l'inceste, mêlée à plein d'autres choses. Mais voilà, c'est pas le moment de cette émission, mais... On aimerait faire ça un jour.
Ouais. Aussi, on veut pas que cette émission, vu qu'on parle de silenciation et tout, que ce soit une injonction à absolument parler et du coup à dire ce qui nous est arrivé et tout. Mais par contre, on pense vraiment que c'est notre responsabilité collective de ne pas silencier d'autres personnes de notre famille et de vraiment être attentif et attentive à ce que tout le système famille peut permettre. Et aussi, c'est pas notre responsabilité de changer nos familles. Et on n'a pas à s'en vouloir si on se casse et si on s'éloigne des personnes qui nous font souffrir. Et l'idée avec cette émission aussi, c'est que chacun puisse s'emparer des outils pour attaquer et vraiment déconstruire la silenciation, mais sans créer de nouvelles injonctions.
Yep. Et puis bon, quand même, pour essayer d'apporter... Allez, une petite note positive, un petit peu d'optimisme. On s'est dit qu'on allait aussi un peu... On avait un peu envie de dire pourquoi nous, on était contentes d'en être sorties des trucs de silenciation. Enfin, sorties. Dans le cadre de notre famille, en tout cas, d'avoir d'être saisi des outils pour l'attaquer un peu nettement.
Je pense que ça m'a permis de m'apaiser à des endroits parce que j'ai pris soin de moi. En fait, j'ai assumé que oui, il y avait des choses que j'avais mal vécues. Et j'en ai parlé, et même si je trouve que les réactions n'ont pas été suffisantes en face et qui fait qu'aujourd'hui j'ai pris la décision d'être en rupture familiale, en fait j'ai quand même la sensation que je me suis occupée de moi-même et je me suis moi-même crue, écoutée, entendue, et j'ai la sensation que j'ai été moi-même l'adulte qui a pris soin de l'enfant à l'intérieur de moi qui vivait encore mal des choses, et ça, je pense que ça m'a fait du bien, je suis contente d'avoir parlé.
Non, moi je pense que ça m'a vraiment fait du bien de rompre la silenciation, parce que moi je pense que j'avais un rapport vraiment très fucké avec la colère et j'arrivais pas à être en colère contre ma famille, et je pense que de m'attaquer à ces systèmes là et m'attaquer à ma famille en reconnaissant, en acceptant de reconnaître le mal qu'elle avait fait et la complicité collective qu'il y avait de ce groupe vis-à-vis de moi, ça a permis de libérer une vraie grande colère qui m'a aussi donné de la force pour ensuite travailler sur mon trauma. Enfin, moi, je pense que la colère dans ma lutte contre les effets de l'inceste sur moi et de la silenciation, ça a été un des outils les plus forts que je pense à des endroits que j'ai récupéré beaucoup en regardant la silenciation, en ayant trop le seum, ce qui est désagréable, mais aussi en l'exprimant, et ça m'a renforcé, quoi.
Et de toute manière, à des moments, on s'est dit aussi qu'on n'avait pas le choix, des fois, de parler, que des fois, ça, juste, c'est là, c'est trop présent, et de toute manière, voilà, il y a plein de moments aussi, c'est pas vraiment un choix que...
Non.
que de parler. Soit parce que nos agresseuses agressent d'autres gens dans la famille, soit parce que nous-mêmes, on est en train d'imploser et que, voilà, c'est de la survie à un moment aussi.
Et juste pour compléter ce que vous disiez par rapport à pourquoi on est content, contente d'avoir parlé, c'est que j'ai l'impression qu'à partir du moment où on fait sortir tous ces trucs dégueux et qu'on les met en mots, on arrive à mieux comprendre ce qui nous traverse et on reprend un peu prise sur des sentiments parfois hyper violents qui peuvent être présents. Et on remet du sens et de la compréhension et on redistribue les responsabilités.
Oui, puis des fois de parler et de pas se faire entendre, ça aide aussi à comprendre tous les mécanismes qu'il y a dans ta famille qui se jouent ailleurs que dans l'inceste.
Ouais.
Et je trouve que ça aide à des fois à analyser sa famille et pouvoir comprendre un peu de ce qui s'est joué à d'autres endroits. Et aussi, moi, j'ai la sensation que c'est pas parce que, enfin, du coup, ce qu'on redit et redit, c'est pas parce que moi j'ai parlé d'inceste dans ma famille que la scientisation a pas eu lieu. En fait, ma famille continue, même sans moi, à je pense, dire que ça n'a pas existé, ou oui, que ça a existé, mais que c'est pas très grave, ou peu importe. Mais moi, j'ai la sensation, ma manière d'être sortie de la silenciation, c'est d'avoir aussi trouvé des gens à l'extérieur. Des amis, des groupes de parole, des groupes d'auto-support, des personnes qui me croient, voilà,
des complices,
soit qui ont vécu ça, soit qui ne l'ont pas vécu, mais qui m'ont fait confiance, qui m'ont cru, qui m'ont aidé à comprendre, à poser des mots, à reconnaître. Et je pense que c'est ça qui m'a fait sortir de la silenciation et qui fait qu'aujourd'hui je suis capable de faire une émission de radio et de me sentir légitime pour faire une émission de radio sur l'inceste. C'est pas être sortie de la silenciation familiale, c'est être sortie de la silenciation dans d'autres sphères.
Ouais, grave.
Et tu parles de légitime et justement, sur une dernière petite note sur cette émission, nous, ça nous tenait vraiment à cœur en tant que personnes concernées de se sentir légitimes à faire 3 heures d'émission sur l'inceste sans être, sans avoir fait des études sur le sujet ou vraiment sans être des experts du monde. On n'est pas des psys, on n'est pas des docteurs. Mais on a aussi conscience que on a travaillé ça pendant presque un an à réfléchir entre nous énormément et je pense qu'on est assez fiers et contentes de ce qu'on a fait. Mais peut-être s'il y a des choses qu'on a dit, d'ici quelques années on sera plus d'accord, peut-être d'ici quelques mois on sera plus d'accord, on a tâtonné, on n'est pas sûr à 100% de tout ce qu'on dit, même si on a essayé de se sentir légitime à le poser sérieusement. Et si vous, il y a des choses qu'on a dit, dites, qui ne vous parlent pas, que vous n'avez pas envie de les saisir, qui sont à des endroits peut-être qui ne fonctionnent pas dans votre rapport à votre propre histoire, c'est ok de prendre seulement ce qui vous intéresse, de laisser le reste, c'est ok vraiment, j'imagine vous le savez, mais de pas du tout être d'accord avec nous. Tout ce qu'on espère, c'est que vous pouvez trouver et piocher quelques bouts, quelques endroits qui vous font du bien et qui vous donnent de la force pour aller lutter de votre propre côté. Et voilà.
Et on n'est pas les porte-parole des personnes incestées.
Non.
On est 3 personnes qui avons vécu de l'inceste dans nos vies. On a aussi essayé de parler et de prendre en compte plein de témoignages et de récits qu'on avait eu de plein d'autres endroits différents depuis des années et des années de parler sur ce sujet. Parce que finalement, on est quand même un peu experts à des endroits. mais on n'est pas porte-parole. Ce qu'on dit.
Non,
toutes les personnes
pas.
Incestées ne pensent pas forcément comme ça. C'est notre lecture de la situation, c'est nos analyses en tant que aussi anarchistes, queer, féministes, etc.
Ok, du coup, on se quitte sur une chanson de Résille qui s'appelle Rupture. Et on a aussi entendu Si l'on pouvait vraiment parler de France Gall.
Et on voulait remercier évidemment les copaines de La Ragne chez qui on a pu vraiment travailler cette émission au calme et en envoyant des petits blaireaux près de la rivière.
On voulait remercier la pote qui nous a aidé pour le montage et qui nous a filé pas mal de conseils. Merci beaucoup à toi, c'est super.
Oui, merci beaucoup. On remercie aussi toutes les personnes du groupe d'auto-support dans lequel on va régulièrement pour tout le soutien et toutes les discussions.
On remercie aussi toutes les personnes qui nous ont écoutées et soutenues pendant toute la création de cette émission, qui ont réécouté, qui nous ont fait des retours.
Oui.
Et puis toutes les personnes qui globalement nous soutiennent et nous écoutent sur ces histoires d'inceste.
On voulait remercier vraiment toutes les personnes qui ont donné leur témoignage pour cette émission, parce que ça a été trop précieux et ça nous a vraiment beaucoup nourris pour avancer.
Un grand merci aussi à la pote pour la peinture qui fait l'illustration magnifique de cette émission de radio.
Merci.
Merci à tout le monde et un gros big up si tu viens de réaliser tes histoires d'inceste et que c'est vraiment compliqué, que tu viens d'avoir une levée d'amnésie traumatique et que t'en as même pas encore commencé à en parler à ta famille. Bon courage.
Ouais.
Un gros big up si t'as pété ton coup de colère contre ta famille et que tu t'es pris des réactions pourries. Va te mettre dans un endroit chouette et laisse-les un peu derrière toi. Franchement, c'est trop stylé ce que tu fais. Et on pense fort à toi.
Et un gros big up aussi à toutes les personnes qui peut-être n'ont pas encore posé des mots d'inceste sur ce qu'elles ont traversé. Big up à toutes ces personnes-là.
Un gros big up aussi si t'es encore en lien avec ta famille et que tu galères et que t'essayes de péter cette silenciation et que tu te manges à balles de réactions de merde. Plein de courage à toi, on pense à toi, on te soutient aussi.
Gros big up si tu viens de faire rupture ou que tu viens de te tirer et que t'as peur que ce soit pas la bonne décision. Et ben franchement continue parce qu'il y a des choses stylées qui se passent quand tu arrives à les mettre derrière toi, ces gens-là. Force.
Gros big up à toi aussi si tu essayes d'aider des gens à sortir de la silenciation et que en fait les gens te racontent leurs histoires et que ça te ravive les tiennes et que c'est compliqué, mais voilà, on est ensemble, on se soutient, on lâche rien et voilà.
C'est de la force.
De la force. Ouais.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup. Ciao.
Salut.
Salut.
Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Ça me fait flipper de vous savoir encore ensemble comme si tout allait bien. Je vous imagine vous raconter que j'exagère, que je suis trop sensible, que j'exagère, que j'ai d'arrêt. Racontez-vous ce que vous voulez, trouvez-vous des coupables et des causes. Je m'en fous. Je vais plus vous rassurer, je vais plus vous soigner. Je vais cesser de tenter de vous sauver. Fini de tenir à bout de bras. C'était vous ou moi? C'était nous ou moi? C'est quoi, je vous laisse? C'est des crevasses, mais je vais les réparer sans vous. Je vais cesser de protéger la machine, le système et ses non-dits. Votre doux et son contraire, votre comme si de rien n'était. Votre lâcheté, votre maltraitance, vos fausses reconnaissances et vos putains de silence. Toujours vos putains de silence. Toujours vos putains de silence. Thank you. sur lequel j'ai cogné, cogné, mais vous êtes, vous vous absorbez, et jamais vous lâchez, contre mes poings vous vous soudez. Mais je veux plus que vous me compreniez, je veux seulement faire un deuil. Cette rage, cette force, cette envie de goûter à notre amour, à nos liens, m'a poussé à déserter. C'est terminé, je quitte la partie, genre de jeu. De toute manière, c'était pas mes règles, de toute manière, elles étaient dégueulasses, vos règles. Vous m'obligerez jamais à rester ni à garder votre silence. Vous m'obligerez jamais à rester ni à garder le silence. Vous m'obligerez jamais à rester ni à garder le silence. Pour que surtout rien change, pour que surtout rien change. Vous m'obligerez jamais à rester ni à garder votre silence. Vous m'obligerez jamais à rester ni à garder votre silence. Vous m'obligerez jamais.